l'écoute de VOA Afrique.
Bonjour, au micro Idrissa Sédoulia. Au Burkina Faso, trois candidats outsiders à la présidentielle du 22 novembre ont déposé lundi leur dossier à la Commission électorale nationale indépendante. Abdoulaye Soma, Issa Sao Dogo et Claude-Aimé Tassengbedo. Le constitutionnaliste Abdoulaye Soma, un membre de la société civile, avait notamment été très actif lors de l'insurrection populaire ayant chassé du pouvoir Blaise Compaoré en 2014. Une dizaine de candidats, comme l'ex-premier ministre Kadré Désiré Ouédraogo ou Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, devrait d'ici au 3 octobre déposer aussi leur candidature contre le président Rochemark Christian Kabore, candidat à sa propre succession. En Guinée, les autorités ont promis lundi pour bientôt un procès du massacre d'opposants au stade de Conakry il y a 11 ans sans fixer de date, malgré l'impatience réitérée par la communauté internationale et les défenseurs des droits de l'homme. Le 28 septembre 2009, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans le stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à la présidentielle du chef de la junte d'alors, Moussa Dadis Camara, selon une commission d'enquête de l'ONU. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma, jugé dans son pays pour corruption, a demandé lundi que le président de la commission d'enquête chargée de la lutte contre la corruption d'État se récuse, l'accusant d'être partial. Englué dans les scandales, Jacob Zuma avait été poussé à la démission en 2018 et remplacé par Cyril Ramaphosa, qui a promis d'éradiquer la corruption. Monsieur Zuma est soupçonné d'avoir généralisé le pillage des ressources de l'État sud-africain, notamment en favorisant les affaires d'un sulfureux trio d'hommes d'affaires, les frères Gupta. Ici aux États-Unis, le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden doivent avoir ce mardi leur premier débat télévisé en prélude à la présidentielle du 3 novembre. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition. Le développement des tests rapides pour détecter le COVID-19 a déclenché une ruée mondiale. Le président Donald Trump en a annoncé la distribution de 150 millions aux États-Unis et l'OMS en a promis 120 millions aux pays pauvres, mais à condition de trouver les fonds. Alors que la pandémie a fait plus d'un million de morts dans le monde, de nombreux experts en santé publique militent depuis des mois pour l'utilisation de ces tests dits antigéniques, peu coûteux, comparables aux tests de grossesse et dont le résultat s'obtient en 15 minutes contre plusieurs jours pour un test classique. Des combats féroces opposant l'Azerbaïdjan aux séparatistes arméniens de Nagorno-Karabakh se poursuivent ce mardi, Bakou passant à une nouvelle offensive à quelques heures d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis dimanche, les forces de l'enclave séparatiste, soutenues politiquement, militairement et économiquement par l'Arménie et celles de l'Azerbaïdjan, s'affrontent dans les combats les plus meurtriers depuis 2016. Le bilan officiel de ces combats meurtriers s'établissait mardi à 95 morts, dont 11 civils, 9 en Azerbaïdjan et 2 côté arménien. Le président français Emmanuel Macron, arrivé lundi après-midi à Vilnius en Lituanie, a réaffirmé sa détermination à œuvrer avec les autres Européens pour un changement de régime au Bélarus voisin où la réélection du président Alexandre Loukachenko est contestée. M. Macron a annoncé qu'il rencontrerait ce mardi la chef de file de l'opposition du Bélarus, Svetlana Tikhanovskaya. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Sédoudia. La suite de nos informations. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a estimé lundi qu'il existait encore des zones grises dans la transition au Mali, notamment concernant le vice-président, avant une levée des sanctions de la CEDEAO. Abdourahmane Dia fait le point.
Après avoir rencontré l'envoyé spécial de la CEDEAO au Mali, Goodluck Jonathan, son prédécesseur à la tête du Nigeria, le président Buhari a indiqué dans un communiqué que selon M. Jonathan, les dirigeants militaires maliens doivent encore satisfaire à la demande de la CEDEAO, dont vice-président civil, et préciser son rôle au sein du gouvernement. Le poste de vice-président de la transition au Mali est occupé par le colonel Assimi Goïta, chef de la junte militaire qui a pris le pouvoir le 18 août à Bamako en renversant le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ceux de président et de premier ministre de la transition sont occupés respectivement par Bandao, un ancien militaire à la retraite qui a prêté serment vendredi, et par Mokhtar Wane, un civil ancien ministre des Affaires étrangères nommé dimanche. Le président nigérian a demandé à Goodluck Jonathan de présenter un rapport au président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo, qui déterminera les prochaines étapes. Selon M. Buhari, les dirigeants de la CEDEAO devrait encore discuter des zones grises qui demeurent dans la situation politique au Mali avant de décider de lever leurs sanctions.
Au Sénégal, les autorités pénitentiaires assouplissent les mesures de lutte contre le Covid-19. Les visites sont à nouveau autorisées au regard de la baisse des contaminations par le nouveau coronavirus dans ce pays. Eddy Issangou.
La mesure entre en vigueur dès jeudi prochain. Chaque détenu bénéficiera d'une visite tous les 15 jours. Mais les détenus devront au préalable en informer l'administration et attendre l'autorisation. Les directeurs des prisons décideront des horaires de visite. Les familles sont, elles, priées d'y continuer à observer les mesures barrières de la pandémie de Covid-19. Les communiqués de l'administration pénitentiaire précisent que toutefois, les détenus placés en quarantaine dans les prisons ne sont pas autorisés à avoir des visites. Le Sénégal, avec près de 16 millions d'habitants, a déclaré depuis le 2 mars 14 919 cas de coronavirus, dont 309 décès. Le seuil des 100 nouveaux cas n'a plus été franchi depuis le 30 août et les nouvelles contaminations quotidiennes s'élèvent actuellement à quelques dizaines par jour. Les couvre-feux et l'état d'urgence en vigueur depuis mars ont été levés en juin et les vols internationaux ont repris depuis le 15 juillet. Les ports du masque restent toutefois obligatoires dans les lieux publics et les transports. Les cérémonies familiales, baptême, décès, etc. sur la voie publique demeurent interdites.
La Libye, au centre de la visite effectuée lundi en Tunisie par le ministre algérien des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, Tunis et Alger réclament à nouveau une solution politique et sans ingérence au conflit libyen. Eric Manirakiza.
Le ministre Boukadoum a rencontré son homologue tunisien Othmane Jarandi, nommé début septembre. Il s'est aussi entretenu avec le premier ministre Hichem Mechichi et le président tunisien Kais Saied. Monsieur Boukadoum a indiqué à l'issue de ces rencontres qu'il avait été convenu de poursuivre des efforts conjoints en vue d'une solution politique, loin des ingérences étrangères, à travers un dialogue global et constructif entre les Libyens eux-mêmes. Il s'agit de la troisième visite de Monsieur Boukadoum à Tunis depuis sa nomination en mars 2019. Alger, qui craint l'instabilité croissante à sa frontière, tente de relancer une médiation entre les camps rivaux en Libye dans un conflit qui menace la stabilité régionale sur fond d'implications étrangères croissantes. Les autorités tunisiennes ont affiché dernièrement un front désuni, mais observent traditionnellement une position neutre sur le conflit en Libye. Selon le communiqué de la présidence tunisienne, cette rencontre a évoqué une visite prochaine du président algérien Abdelmadjid Tebboune à Tunis.
Minute Éco, Nani Talani.
Le Gabon a officiellement lancé les travaux de la Transgabonaise, une route qui traverse le pays d'est en ouest sur 780 km et qui reliera les grands bassins agricoles sur les nationales 1 et 3 du tronçon Owendo-Njolé Carrefour Le Roi-Lastourville. Évalué à 600 milliards de francs CFA, les travaux devraient s'achever d'ici à 2023. Ils sont exécutés par Ariz et la société autoroutière du Gabon dans le cadre d'une concession de 30 ans. Le FMI annonce que l'Angola a conclu des accords sur le reprofilage ou la restructuration de sa dette avec deux de ses grands créanciers qui n'ont pas été identifiés. Luanda bénéficiera d'un milliard 765 millions de dollars supplémentaires du FMI, lui permettant d'alléger les pressions financières exacerbées par le coronavirus et la baisse du prix du pétrole. La mesure offrira aussi à Luanda un moratoire de 3 ans sur le remboursement du montant du capital emprunté, différé entre 2020 et 2023, soit plus de 7 ans après la période de grâce. Pour terminer, les États-Unis ont fait savoir ce lundi qu'ils feront appel d'un verdict de l'OMC favorable au Canada et portant sur le bois canadien de construction. Depuis plus de 40 ans, Washington estime que les prix de ce bois sont injustement sous-évalués et qu'il est subventionné, portant un préjudice notable aux Américains. Il y a 2 ans, le Canada avait déposé plainte auprès de l'OMC pour contester des droits compensateurs imposés par les États-Unis sur son bois. Les conclusions favorables aux Canadiens ont été publiées fin août.
Les sports à présent avec Bagassi Koura.
Bonjour à tous. On commence par du football. En Premier League, Liverpool a poursuivi son sans faute et rejoint Leicester et Everton en tête du classement en infligeant à Arsenal sa première défaite de la saison. 3-1 hier soir pour la 3e journée de Premier League, avec donc 9 points sur 9 possibles et plus 5 de différence de but. Les Reds sont 2e alors que les Gunners, avec 6 unités au compteur, sont 5e dans un groupe étau avec Aston Villa 4e, Crystal Palace 6e et Leeds 7e. En Italie, le Genoa a annoncé lundi que 14 membres de son effectif et de son staff avaient été testés positifs au Covid-19, alors que dans le même temps, leurs rivaux de la Sampdoria ont annoncé le test positif de leur recrue imminente, le monégasque Keita Balde. Le gardien de l'équipe Mattia Perin, le milieu Lars Schön, était absent lors de la large défaite 6-0 face au Napoli, mais 12 autres membres du club ont été testés positifs après le match. Dans le même temps, lundi soir, l'autre club de Gênes, la Sampdoria, annonçait que le joueur de Monaco, Keita Balde, sur le point d'être transféré, avait lui aussi été testé positif au Covid-19 lors de sa visite médicale. Il n'a eu aucun contact avec le groupe professionnel et est en quarantaine, a précisé la Sampdoria dans un communiqué. 10 joueurs ou membres de staff des 20 équipes de Premier League ont été déclarés positifs au Covid-19 lors de la 4e vague de dépistage, le plus haut total depuis que ces tests sont menés. C'est ce qu'a annoncé lundi l'organisateur du championnat. Le niveau de contamination reste toutefois bas, puisque 1595 joueurs et membres de staff ont été testés entre le 21 et le 27 septembre, mais le chiffre est nettement supérieur aux 3 vagues précédentes qui avaient détecté 3, 4, puis à nouveau 3 cas positifs. Les joueurs et les membres de staff positifs vont s'isoler pendant 10 jours, conformément au protocole mis en place par la Premier League et les autorités publiques. Et pour terminer, un mot de basketball pour signaler que Miami, qui s'est qualifié pour la 6e finale NBA de son histoire, affronte ce mercredi les Los Angeles Lakers, menés par son ancienne superstar LeBron James, qui a éliminé Denver à l'ouest.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À 3 mois des élections groupées en République centrafricaine, le climat politique est tendu. Échange d'accusations entre l'opposition et le pouvoir, tandis que la société civile appelle au dialogue et à l'apaisement. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Depuis plusieurs semaines, les attaques verbales se multiplient dans les deux camps. Là où le bas blesse, aujourd'hui, c'est la modification de la loi électorale par l'Assemblée nationale pour permettre à l'Autorité nationale des élections de réaménager son chronogramme et d'organiser les élections le 27 décembre 2020. L'opposant Joseph Bendunga est président du parti MDREC.
Pourquoi attendre la fin du mandat Touadéra pour trafiquer le code électoral? On ne va pas attendre la veille des élections pour pouvoir corriger les textes. C'est par achat du vote et de la conscience des députés qui siègent à l'Assemblée. D'abord, ce n'est pas une Assemblée nationale, mais c'est un club de mangeurs.
La réaction de l'Assemblée nationale ne s'est pas fait attendre. Jean-Symphorien Mapenzi, premier vice-président.
Je ne peux pas accepter au président Bendunga de jeter l'opprobre sur l'Assemblée nationale. Je veux simplement lui rappeler que nous sommes des élus de la nation et à ce titre, il faut des égards vis-à-vis des députés. Il y a deux faits majeurs. Vous vous souvenez du vote du code électoral. Le gouvernement voulait que les cautions à la présidentielle soient de 50 millions. Mais les députés, souverainement, nous avons ramené à 15 millions. On n'a pas respecté la volonté du gouvernement. Deuxième chose, la loi sur l'ANE. Le gouvernement voulait que l'ANE reste au-delà du mandat et finit le cycle électoral. Mais à l'Assemblée nationale, les députés, dont ceux de la majorité, ont dit non, il faudrait que le mandat de l'ANE finisse dans les délais prescrits, c'est-à-dire le 23 décembre. Ça, c'est deux exemples parmi tant d'autres qui prouvent que l'Assemblée n'est pas une chambre d'enregistrement.
Pour le Premier ministre centrafricain Firmin Gribada, les députés ont fait preuve de grande maturité en adoptant le projet de modification du code électoral.
Nos députés ont fait preuve d'une grande maturité compte tenu de l'importance de ce texte pour notre nation. Cela va permettre donc à l'Autorité nationale des élections de bénéficier de ce délai technique en vue de finaliser les opérations d'enrôlement et de fournir le fichier électoral pour nous permettre d'aller vers des élections libres et crédibles en respectant les délais constitutionnels, ce qui reste donc la priorité du gouvernement.
Face au climat politique délétère, la société civile s'inquiète. Elle appelle le pouvoir et l'opposition au dialogue et à l'apaisement. Oumarou Sanda Bouba, coordonnateur de l'intersyndicale de Centrafrique.
Nous avons constaté que la vie politique est en train de prendre une autre ampleur par des insultes, par des gabegies. Mais nous, qui sommes les représentants des travailleurs, nous voulons interpeller seulement le gouvernement et l'opposition. Nous sommes tous filles et fils de ce pays pour qu'ils soient ensemble pour discuter des biens de notre pays. Préparer les élections dans la paix pour que les travailleurs n'en souffrent plus et ces Centrafricains et Centrafricaines aujourd'hui n'en souffrent plus.
La modification de certains articles du code de électorale par les députés va permettre à l'Autorité nationale des élections de poursuivre l'enregistrement électoral jusqu'au 8 octobre 2020. De même, le corps électoral pourra être convoqué dans un délai de 60 jours avant la date du scrutin au lieu de 90, comme mentionné dans l'ancienne loi. L'opposition dénonce des manœuvres politiciennes du pouvoir en vue de frauder les prochaines élections. Accusation rejetée en bloc par le pouvoir, estimant que l'opposition est à bout de souffle car sentant sa défaite dans les urnes. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Tchad, le phénomène d'acheminement clandestin de jeunes travailleurs de la zone méridionale vers l'est du pays persiste, malgré la sensibilisation des associations. La semaine dernière, un groupe de jeunes de différentes localités de la province du Moyen Chari, en partance vers l'est, a été intercepté par les autorités provinciales. Notre correspondant André Kodmadjingar nous en dit plus.
Le phénomène est récurrent et fréquent dans les provinces du Mandoul et du Moyen Chari, deux provinces à l'extrême sud du Tchad. Les jeunes de ces localités, dont l'âge varie entre 15 et 25 ans, se font emmener dans l'est du Tchad par des gens tapis dans l'ombre. Ces principaux employeurs invisibles promettent à ces jeunes désespérés un avenir radieux à travers un travail de sang qui pourra leur permettre de gagner la vie facilement. Ils utilisent souvent les intermédiaires pour payer leur transport jusqu'à la destination, souvent inconnue de ces jeunes à la recherche de l'Eldorado. La semaine dernière, un groupe de plus de 30 30 jeunes en route vers l'Est a été appréhendé par les autorités judiciaires de la province de Sahar.
Des informations que nous avons reçues, des photos même à l'appui, c'est que ces jeunes arrivés là-bas sont soumis à une traite toute faite. Donc c'est une traite des personnes qui se pratiquent là-bas. C'est pourquoi nous les avons interceptés.
Alors, Akete Sanengar, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sahar. Pour lui, ces jeunes sont ignorants et ne savent vers où ils sont en train d'être amenés.
Si quelqu'un va pour chercher travail, qu'il sache où il est en train d'aller, travailler pour qui et dans quelles conditions. Les gens peuvent recruter ces intelligences-là pour les mettre au service d'une force ennemie, ça c'est possible. Donc c'est pour remonter la ligne-là et rechercher les vrais auteurs de quelque chose qui se prépare quelque part. Nous avons intercepté ces intelligences-là.
Toute la communauté déplore ce phénomène qui, selon elle, n'est pas loin d'une migration.
C'est un phénomène qui est très déplorable et que nous ne pouvons pas accepter que des jeunes qui sont la crème de notre société puissent se déplacer en masse, abandonner leurs parents, abandonner leur village pour des horizons douteux.
Jimmy Ngandere, secrétaire exécutif de l'association Caisse de solidarité et d'entraide, une association de la communauté Sarakaba basée au sud du Tchad. Pour lui, il faut agir pour stopper cette hémorragie.
Tout au début, c'était quelques cas, mais aujourd'hui, nous avons assisté à une quarantaine de jeunes qui ont été appréhendés par les autorités judiciaires. Cela est vraiment déplorable. Ce phénomène-là est en train de saper la base du développement de notre province et partant du Tchad tout entier. Si chacun, à son niveau et en ce qui le concerne, ne contribue pas à éradiquer ce phénomène, cela ne peut pas du tout contribuer à apaiser le climat social.
Pour Dida Omar, président de la Commission nationale des droits de l'homme, la sensibilisation a échoué, donc il faut appliquer la loi contre les indélicats.
Certaines personnes qui aujourd'hui pratiquent la traite la trouvent légale. Il te dit tout simplement que moi, j'ai acheté l'enfant. Un enfant, ça ne s'achète pas. Il faut localiser les trafiquants, il faut les juger, les condamner. C'est des délinquants. Si on est capable de transférer le copain d'un sous-préfet à Korotoro, ça veut dire qu'on est aussi capable de transférer ce genre de criminels à Korotoro.
Selon les autorités judiciaires de la province du Mont-Chari, 5 groupes de jeunes en partance pour l'Est et le Nord du pays ont été interceptés de Gé à septembre. Certains à la recherche du travail, d'autres pour être utilisés sur le champ d'orpaillage. André Koduma Dingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Présidentielle américaine 2020, le premier des trois débats prévus entre le président Donald Trump et l'ancien vice-président Joe Biden aura lieu ce soir à Cleveland, dans l'Ohio. La campagne est serrée, tant au plan national que dans l'Ohio même, un état clé, où les opinions concernant l'un ou l'autre candidat sont très tranchées, d'un ménage à un autre. Reportage de Caroline Presutti, repris ici par Lionel Gahima.
Le drapeau de campagne de Donald Trump est le premier signe de la politique dans ce quartier de Cleveland. Il a été planté par Dolores Gentile, une supportrice de Trump.
J'ai débattu s'il fallait le planter ou non parce que j'avais peur que ma maison puisse être la cible de tir. Puis je me suis dit, vous savez quoi, je ne veux pas vivre dans la peur.
Mais de l'autre côté de la rue, une partisane de Biden et aussi une amie depuis 44 ans, Patty Lucci.
Quiconque sera en charge devra nous mener et être gentil, intelligent et démocratique.
L'Ohio est crucial dans la course à la Maison Blanche. Aucun républicain n'y est entré sans s'être imposé aux urnes dans cet État. Le président Trump l'a remporté avec 8 points d'avance en 2016 sur Hillary Clinton. Mais cette année, quelques points seulement le séparent de son adversaire, Joe Biden, alors que le scrutin du 3 novembre divise les quartiers et même les familles. Patty Lucci, partisane de Biden.
La moitié de mes enfants soutiennent Trump. Aussi, nous ne les invitons plus chez nous. Nous disons que nous ne parlerons plus de politique, puis nous le faisons, et ensuite nous cessons de le faire.
La polarisation politique à travers le pays peut profondément affecter les familles. Joe White enseigne la politique américaine à l'université Case Western Reserve.
Les républicains sont plus énervés par la possibilité qu'un enfant épouse une personne du même sexe ou qu'il soit transgenre. Les démocrates sont plus furieux à l'idée que leur enfant se marie à un républicain.
Dolores Gentile assure toutefois que son amitié avec Patty Lucci transcende la politique.
J'aime Trump. Ils aiment Biden. Et puis quoi? L'un des deux va gagner.
On s'attend à ce que le premier débat présidentiel prévu ce mardi à l'université Case Western Reserve, pas loin de leur quartier, soit âprement disputé. Le professeur Joseph White.
Le vice-président Biden va probablement tenter de maintenir une position d'équilibre en quelque sorte, mais il voudra aussi trouver les moyens de présenter Trump sous son jour le plus sombre possible, ce qui voudra dire l'inciter.
Ce soir, au pavillon des débats de Cleveland, les deux hommes présenteront leurs bilans respectifs et discuteront des sujets comme la Cour suprême, la pandémie de coronavirus, la sécurité des élections et l'économie, entre autres.
Éviter tout problème majeur sera le principal objectif du président Donald Trump et de l'ancien vice-président Joe Biden lors de leur premier débat ce soir. Steve Reddish revient sur des moments historiques dans les débats ayant façonné la politique américaine. Récit d'Abdourahman Dia.
The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy.
De Kennedy contre Nixon.
This was locker room talk.
À Clinton contre Trump, les débats présidentiels ont été ponctués de moments spéciaux qui ont, dans certains cas, défini des carrières et laissé une marque indélébile sur la politique américaine. Walter Mondale, candidat démocrate à la présidentielle de 1984 contre le président Ronald Reagan.
Almost always, every debate cycle I can remember.
Presque toujours, de chaque débat qui me revient à l'esprit, je peux me rappeler quelque chose ayant eu lieu en dépit des candidats et qui a montré au peuple américain quelque chose qu'il avait besoin de savoir concernant le candidat.
That they needed to know about the candidate.
Pour Walter Mondale, cela est arrivé à deux reprises, lorsqu'il a défié le président Ronald Reagan, qui briguait alors son second mandat.
Reagan ne suivait pas vraiment son script et il se lançait dans ses discours dans lesquels il finissait par s'égarer, oubliant où il voulait en venir.
L'ancien président Ronald Reagan dans son face-à-face contre Mondale.
I think the people should understand that two-thirds of the defense budget.
Et deux tiers du budget de la défense vont à la solde et au salaire, ou à la solde ou à la pension. Et puis, vous y ajoutez la nourriture et les vêtements et toutes les autres choses et vous n'avez qu'une petite portion allouée aux armes.
Alan Schroeder, professeur de journalisme à l'université Northeastern, a écrit un livre sur le rôle de la télévision dans les débats présidentiels, à commencer par le tout premier de l'histoire moderne de ce pays en 1960 entre John Kennedy et Richard Nixon.
As we know, Nixon refused to have any makeup.
Nixon, étant sorti quelques semaines plus tôt de l'hôpital, avait perdu du poids et était très pâle. Il n'avait pas vraiment utilisé du maquillage comme il l'aurait dû. Il transpirait et il apparaissait amaigri. Alors, il ne passait pas bien à la télé.
Pour les téléspectateurs, Kennedy avait gagné le débat, se rappelle Frank Cessno, directeur des initiatives stratégiques à l'université George Washington. Cessno est un ancien correspondant de presse à la Maison-Blanche.
You know, there was the famous moment way
back. Vous savez, il y a eu ce moment mémorable lorsque Gold était candidat et qu'il avait tenté de suggérer que la Pologne ne faisait pas partie de l'Empire soviétique.
Mary Kate enseigne les sciences politiques et elle est chercheuse principale au Centre Miller de l'Université de Virginie à Charlottesville. Elle était rédactrice des discours de l'ancien président George Bush père lorsque ce dernier a pris part au débat de 1992 contre Bill Clinton et Ross Perot.
L'un des deux avait violé les règles du débat et excédé son temps de parole. Et la journaliste Carol Simpson n'appliquait pas les règles. Bush désigne sa montre pour lui signaler d'intervenir. Ne sachant pas les règles, le public a pensé que le président songeait à autre chose, qu'il voulait aller manger un hamburger. Cela s'est sérieusement retourné contre lui.
Elle était rédactrice des discours de l'ancien président George Bush père lorsque ce dernier a pris part au débat de 1992 contre Bill Clinton et Ross Perot. Dans son débat contre Walter Mondale en 1984, Ronald Reagan a eu le dernier mot lorsqu'on lui a demandé s'il n'était pas trop âgé pour la présidence.
Je veux que vous sachiez également que je ne ferai pas de l'âge un sujet de cette campagne. Je ne peux pas exploiter à des fins politiques la jeunesse et l'inexpérience de mon adversaire.
Ronald Reagan a défait Mondale par un raz-de-marée.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée.